Chapitre 41e. Entretien de la serre aux ananas. Le lendemain était le jour de charité de la comtesse. Les paysans malades des villages environnants savaient que deux fois par semaine, ils trouvaient à Koumiassina des conseils, des remèdes, du pain blanc, du bouillon, quelquefois un peu de vin. La comtesse, si dédaigneuse, si acharnée à la défense de son autorité, se faisait alors patiente et douce. Sans se rebuter de l'odeur nauséabonde, elle démaillotait les enfants, tâtait les petits corps malades, pansait les plaies, parfois horribles, donnait sans frémir un coup de lancette dans un dépôt, saignait et vaccinait sans se plaindre de la fatigue et du dégoût. En remplissant ses humbles devoirs de petite sœur des pauvres, l'altière comtesse ne se croyait pas supérieure au reste de l'humanité. Les dames russes ont, pour la plupart, l'habitude d'agir ainsi dans leurs terres. Les énormes distances entre les villes forcent les paysans à se passer de médecins, et les propriétaires considèrent généralement comme le plus élémentaire de leurs devoirs de donner des secours à ces pauvres gens. Les jeunes filles apprennent ainsi près de leur mère quelques principes d'hygiène et un peu de médecine domestique. Une petite pharmacie se trouve dans chaque maison seigneuriale, et bien rarement les malades s'en retournent sans quelque soulagement. La matinée avait été pluvieuse, de sorte qu'il n'était venu personne. À midi, le temps s'éclaircit, et moins d'une demi-heure après, l'antichambre et le perron étaient envahis par une foule de souffreteux appartenant au voisinage. Ceux qui venaient de loin étaient encore en route. Comme d'habitude, la comtesse parcourait les rangs. Sa femme de chambre l'accompagnait pour distribuer les médicaments et les friandises aux malades et aux convalescents. La voiture de Chourov s'arrêta devant le perron au plus fort de cette consultation domestique. « Excusez-moi pour le moment, je vous prie, mon cher prince, » dit la comtesse sans se troubler. « J'en ai encore pour une heure ou deux. Veuillez aller au jardin. Ma fille va vous montrer les serres et j'irai vous rejoindre. » Trop heureux de cette circonstance, sur laquelle il avait compté, mais qui aurait pu lui faire défaut, Chourov se dirigea vers le jardin pendant que domestique prévenait la jeune comtesse. Celle-ci, escortée de l'inévitable Miss Junior, parut bientôt, salua d'un sourire affectueux tous les visages hâves ou souffrants qui se tournaient vers elle, trouva, grâce innée que sa mère ne possédait pas, mais qu'elle tenait de son père, une bonne parole pour chaque misère, une caresse pour chaque enfant, et disparut promptement, laissant derrière elle un sillage de joie et de consolation. La comtesse continua méthodiquement son œuvre de charité, sans enthousiasme comme sans répugnance. Quand elle était là, elle n'avait plus de nerfs. Le prince était assis sur un banc, à l'entrée du jardin. À l'approche de Zina, il se leva. Elle lui tendit la main. Il y mit un billet qu'il tenait caché dans la sienne, et la jeune fille le fourra prestement dans sa poche avant que Miss Junior eût pu seulement répondre aux enquêtes réitérées du prince sur l'état de sa précieuse santé. « Maman m'a dit de vous faire voir les serres, » dit Zénaïde. « Allons, prince, c'est une jolie promenade. Je suis sûr que, sans valoir les vôtres, elles auront l'heure de vous plaire. » On causa, on rit, on effleura la politique et la littérature. Miss Junior était charmée de l'amabilité du prince, qui de sa vie ne lui en avait dit si long. Les serres étaient en partie ouvertes, à cause de la beauté de la saison. Les visiteurs admirèrent consciencieusement jusqu'au moindre ragot. Zina semblait prendre plaisir à compter les feuilles, pour ainsi dire, de chaque myrte et de chaque orangée. Jamais Cicérone n'accomplit son devoir plus scrupuleusement. « Maintenant, dit-elle, allons voir les ananas. »« Miss Junior, » ajouta-t-elle en anglais, « si la chaleur doit vous faire mal, je vous conseille de ne pas venir avec nous. »« Oui, c'est vrai, j'ai la migraine toutes les fois que j'entre dans ces vilaines serres chaudes. Mais que dira votre maman ?»« Maman, elle ne dira rien vu qu'elle n'en saura rien. »« Allons, tenez, voilà un livre. Je l'avais dans ma poche. Asseyez-vous là. » « Si maman vient, vous la verrez de loin et vous entrerez. Du reste, je ne serai pas longtemps. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas de rôtir tout vivant. » Zina ouvrit la porte de la serre et d'un sourire invita le prince à la suivre. Puis de peur des vents coulis sur les ananas, elle referma la porte. Le jardinier vint à leur rencontre. Elle le congédia d'un mot et se trouva seule avec Chourov dans la cage de verre. « Je vous admire, » dit celui-ci. « Vous pensez à tout. » Zina rougit et détourna brusquement la tête. « Aïe, » pensa Chourov, « lourdeau que je suis. Voilà un compliment qui a l'air d'une méchanceté. « Oh, pardon, mademoiselle, » murmura-t-il, « croyez bien que jamais ma pensée... »« Je ne peux vous prêter aucune pensée qui me fasse rougir, » dit noblement la jeune comtesse, en tournant vers lui son visage encore empourpré. « C'est la faute des circonstances, si je me suis mise dans le cas d'éprouver quelque confusion. »« Ne croyez pas, monsieur, » ajouta-t-elle vivement, « que je puisse faire pour moi-même ce que je fais à présent pour une autre. Mon audace m'étonne, mais ne perdons pas un temps précieux. Qu'avez-vous à me dire ?»« D'abord, je veux vous dire, mademoiselle, » répondit le prince d'un ton grave et pénétré, que je n'ai jamais rencontré nulle part autant de véritable courage uni à une telle abnégation de soi-même. Mon estime et mon respect vous sont acquis entre toutes les femmes. » Zina remercia d'un signe de tête et le sourire reparut sur son visage. « Et puis, » dit-elle avec enjouement, « vous avez dans votre poche un plan de conduite qui doit être suivi de succès. Madame Gorov est à la ville voisine. Ma tante Gorov ? Oh, c'est bien cela. Quelle bonne idée. Mademoiselle Gorov ne pouvait partir qu'avec sa mère. J'ai prévenu celle-ci. Elle attend, dans des transes que vous pouvez vous imaginer, que sa fille la rejoigne. Il faut que vous tentiez l'évasion sans mon secours. Pour que votre cousine sorte la tête haute de cette maison, il est nécessaire que je passe la soirée ailleurs, chez un voisin que votre tante connaisse. C'est ce qu'on appelle un alibi, je crois. C'est très bien, prince, très bien pensé. À mon tour, je vous admire. Mademoiselle Gorov trouvera tout ce dont elle aura besoin dans la voiture. Le cocher m'est dévoué. Je l'ai fait venir d'une autre terre, on ne le connaît pas ici, et il s'en retournera chez lui. Tout est à la ville voisine, prêt à venir au signal. Quel jour ? Demain, s'il est possible, répondit Zina sans hésiter. Elle s'affaiblit de jour en jour. Mais qu'a-t-elle ? Elle se meurt de chagrin. Vous m'excuserez, prince, d'éviter ce triste sujet. Le prince s'inclina. Il n'était plus bête du tout et comprenait à demi-mot les choses les plus abstraites. « Demain soir, alors, comment la ferez-vous sortir sans que votre mère le sache ?»« J'ai mon idée, » dit Zina en baissant la tête. « Ma mère sera occupée ailleurs, mais ceci est mon secret. »« Fort bien, peut-elle marcher ?» Les bras de Zina descendirent piteusement le long de sa robe. « Marcher ? J'ai grand-peur que non. Faut-il aller loin ?»« Hélas, mademoiselle, ce n'est pas bien loin, mais c'est terrible. Il faudra traverser le petit cimetière. Plus près, nous serions découverts. » La route fait là un coude qui nous protège. N'avez-vous ici personne de confiance ? Personne, répondit la courageuse fille. Mais s'il le faut, je la porterai. Je suis grande et forte. Le prince s'inclina profondément et baisa avec un respect sans borne le bout de la ceinture de la jeune comtesse. Ceci, mademoiselle, dit-il, est l'hommage d'un homme qui se sent bien peu de choses auprès de vous. Zina, troublée d'abord par cette marque de dévotion, la première qu'elle eut reçue d'un homme de son rang, releva la tête et tendit la main à Chourov. « Je crois, prince, que nous sommes dignes de nous entendre. » Chourov eut grande envie de baiser cette main, un peu grande, mais admirable de ligne, qui se présentait si franchement à lui. Mais il se dit que le moment était mal choisi, et lui imprima l'étreinte chaleureuse d'un camarade, d'un ami. « Allons, » dit Zina. Vous n'oublierez pas de dire à ma mère que de votre vie, vous n'avez vu d'aussi beaux ananas. Rien ne peut lui faire autant de plaisir. » Elle allait sortir quand elle s'arrêta, saisie de douleur. « Ah ! » dit-elle, imprudente, « il faut de l'argent pour voyager, et je n'ai presque rien. J'aurais dû écrire à mon père. »« Madame Gorov y pourvoira, » répondit le prince discrètement. « Elle s'est procuré une somme suffisante. » Zina n'osa regarder Chourov, mais la rougeur de son cou et de ses joues ne put être uniquement attribuée par lui à la chaleur de la serre. « Vous êtes bon, » dit-elle enfin, « et je vous remercie au nom de ceux qui souffrent. » Et la conversation reprit aussitôt, variée et intéressante, jusqu'au moment où la comtesse vint rejoindre le trio dans le jardin. Zina profita de cet instant de répit pour s'esquiver, et mit Junior pour aller achever sa sieste interrompue. Un regard assura Zina que sa mère emmenait le prince dans la tente de Coutil, et elle se dirigea sans hésiter vers la chambre de la comtesse. Chapitre 42e. Vassilissa fait de l'exercice. Vassilissa était en réalité beaucoup moins malade que ne le croyait tout le monde, et beaucoup plus que sa tante ne voulait l'admettre. l'anémie, qui couve sous la belle santé apparente de la plupart des filles du grand monde dans ces climats du Nord, s'était emparée d'elle avec rapidité. Mais à part la diminution des forces, suite naturelle de l'appauvrissement du sang, aucun germe de mal sérieux ne se montrait en elle. Dès le premier jour, se sentant impuissante à lutter, elle avait abandonné la partie. « Je mourrais plutôt que de céder », s'était-elle dit, et comme elle ne voyait pas d'autre issue que la mort à sa situation, elle avait pris le parti de se laisser mourir, pensant que le plus tôt serait le mieux. Elle restait au lit parce que se lever était une fatigue. Elle se laissait aller à la somnolence, parce qu'elle ne pensait pas pendant qu'elle dormait. Elle s'affaiblissait parce qu'elle mangeait peu, et plus elle était faible, plus son pauvre appétit diminuait. De sorte que, faute d'une réaction puissante, elle se fut probablement laissée aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la tombe. La visite de sa cousine l'avait sinon sauvée et guérie, du moins arrêtée sur cette pente fatale, en faisant entrer dans sa vie un vague rayon d'espérance. La perspective d'une évasion, si invraisemblable qu'elle lui parut au premier abord, se mêla désormais à toutes ses pensées. Dès le lendemain de cette visite, pendant que sa tante était dans le salon, s'apercevant qu'elle était seule, elle se laissa glisser de son lit sur le tapis, ce qu'elle n'avait pas fait depuis plus de 15 jours. Qu'ils étaient faibles, ces pauvres petits pieds déshabitués de la marche, comme ils fléchissaient sous elle, comme la tête lui tourna promptement. À peine avait-elle eu le temps de se mettre debout qu'elle se sentit défaillir, mais elle tint bon, une force nouvelle lui était venue. Elle fit 3 pas, et sans haleine, sans voix, mais joyeuse, elle se laissa tomber sur un fauteuil. La matinée était fraîche encore. La chaleur n'avait pas atteint le côté du jardin sur lequel donnait sa fenêtre. Elle aspira l'air avec délices. Là-bas, derrière le monticule semé de croix, on voyait la route de Pétersbourg. Elle sourit joyeusement. Les croix blanches ne lui causaient plus de crainte. Si les forces venaient à lui manquer, elle s'appuierait à ses croix tutélaires pour reprendre haleine et continuer son chemin. Au bout d'un instant, elle regagna son lit non sans peine et se promit de recommencer dès qu'elle serait seule. En effet, à partir de ce moment, le courage dont elle avait donné tant de preuves pendant l'hiver, l'énergie de l'action aussi bien que celle de la résistance, lui revinrent peu à peu, à mesure qu'elle exerçait ses pas encore faibles du fauteuil à la fenêtre, de la fenêtre au lit. Elle prit l'habitude de faire baisser le store, diminuant ainsi sa ration d'air et de lumière pendant une partie de la journée, plutôt que de courir le risque d'être aperçue du dehors debout et marchant. La comtesse, au fond très fâchée du tour que prenaient les choses, lui faisait tous les matins et tous les soirs sa visite obligée. « Êtes-vous disposée à m'obéir ? » disait-elle. « Je ne puis, ma tante, » répondait Vasilissa. « Fort bien, » disait la comtesse, et elle sortait, blessée et réellement vaincue, quoi qu'elle en eût, par cette petite fille résignée qui ne craignait rien, forte de sa faiblesse même. La comtesse eut bien donné 10 000 roubles à celui qui lui procurait le moyen de sortir du mauvais pas où elle s'était mise. Déjà, dans la maison, parmi la domesticité, le bruit courait vaguement que la demoiselle était très malade, parce que c'est malsain de ne voir personne et d'être enfermée. On accusait la comtesse de forcer sa nièce à rester au lit, afin de l'affaiblir. 1000 autres bruits semblables que la comtesse devinait, car quel mortel assez osé se fût rencontré pour les lui répéter, ces rumeurs insaisissables la flagellaient rudement dans son orgueil. « Je ne céderai pas, je vous le jure, » avait-il dit à sa nièce. Faudrait-il qu'elle cédât, malgré son serment ? Une fois de plus, elle manda le médecin. Celui-ci, étonné de trouver au lit une malade à laquelle il eût fallu les voyages, l'hydrothérapie, les toniques, les stimulants, tout ce qui peut ranimer les forces de la vie quand elle nous abandonne, exprima son étonnement à la comtesse. « Il lui faut de l'exercice, dites-vous, docteur ? Elle en fera dès demain. » Le lendemain était précisément le jour où Dimitri s'était glissé près de Vasilissa endormie. En se levant, la comtesse fit apporter à sa nièce une robe de chambre et des pantoufles. « Vous allez vous lever, lui dit-elle, et faire 3 fois le tour de cette pièce. C'est l'ordonnance du médecin. » Lisa craignit un instant d'avoir été surprise pendant ces moments d'exercice. Elle feignit une grande faiblesse, se laissa mettre la robe de chambre et les pantoufles, et d'un air dolent, fit trois pas, appuyé sur sa soubrette. Après quoi, elle se déclara fatiguée. « C'est bien, » dit la comtesse. « Asseyez-vous, vous recommencerez tout à l'heure. » Vassilissa fut obligée de déployer ses forces nouvellement acquises, et bien lui en prit d'avoir essayé seule, car sa tante n'entendait pas qu'on lui désobéît sur ce chapitre plus que sur les autres. Aussi, quand la comtesse eut permis à Lissa de regagner son lit, la pauvre enfant, vainement harassée, autant, il est vrai, par la contrainte morale que par les efforts physiques, s'endormit d'un profond sommeil, avec cet air de fatigue qui avait si vivement frappé Dimitri. En quittant sa mère, qui causait avec le prince, Zina prit le meilleur parti, c'est-à-dire le plus audacieux. Elle passa de pied ferme devant la pièce où jasaient les femmes de chambre. Par bonheur, elle ne fut point aperçue. Elle gagna la chambre de sa mère et d'un bond se trouva auprès de Vassilissa, qui profitait de sa solitude pour tourner lentement autour de sa prison. Zénaïde n'avait plus revu sa cousine depuis le soir de sa conversation avec le prince. Elle remarqua le changement en mieux qui s'opérait chez elle. La jeune fille était toujours bien maigre, mais ses yeux plus vifs et une teinte plus chaude sur les joues témoignaient d'une vitalité plus énergique. « Tu es debout ? » s'écria-t-elle. Elle mit aussitôt sa propre main sur sa bouche pour étouffer cette parole imprudente. Personne n'avait entendu. Elle continua, plus bas. « Tu marches donc ? Quel bonheur ! C'est ta mère qui me l'ordonne, mais elle ne sait pas que je suis si forte, » répondit Lissa avec un sourire malicieux. Ombre de celui qui charmait tous ces danseurs de Pétersbourg. « Tant mieux, » dit Zina. « Écoute, c'est demain. »« Demain ?» dit Vassilissa qui s'arrêta, pâlit et faillit tomber. « Que je suis bête, mon Dieu !» s'écria Zina en la reconduisant à son lit, où elle lui mit une masse de couverture sur le corps dans l'excès de son zèle. « J'aurais dû te dire cela avec plus de précaution. »« Parle, parle !» reprit Vassilissa. Le premier coup est porté, je suis forte maintenant. C'est demain. Tiens, Lissa, je n'ai pas eu le temps de lire, tu me le rendras. » Elle lui mit dans la main la lettre du prince que Lissa cacha sous sa couverture. « Demain soir, à 9h15, sois prête. C'est le moment où l'on sert le thé. As-tu ta montre ?» La montre de Vassilissa était sur la table. Zina l'a mis à l'heure de la sienne. « Seras-tu prête ?»« Oui, certainement. Mais je ne peux pas sortir en pantoufles. »« C'est vrai !» répondit Zina, perdue dans un océan de perplexité. « Et si l'on t'apporte trop tôt des bottines, quelqu'un les trouvera ici. »« Non, » répondit Lissa, « je les mettrai à mes pieds dans mon lit, mais je n'ai ni robe ni chapeau. Tout cela sera dans la voiture, avec ta mère. »« Ma mère ?» s'écria Lissa. « Je vais voir ma mère ?» Elle fondit en larmes, non qu'elle eût pour sa mère, si rarement entrevue, une affection passionnée, mais tout ce qui était en dehors des murs de la maison comme Yacine lui avait paru si bien mort et perdu que revenir à toutes ces choses, à tous ces êtres aimés, était trop fort pour elle. Un bruit se fit entendre dehors. La voix du prince, qui parlait très haut, exprès sans doute avec la comtesse en traversant le jardin, glaça le sang dans les veines des deux conspiratrices. « Je m'en vais. Donne-moi la lettre, » murmura Zina. « Je ne l'ai pas lue, » répondit Lissa, éplorée. « Eh bien, garde-la !» répliqua sa cousine, toujours prompte à se décider. « Je viendrai la chercher ce soir. Tu me la jetteras par la fenêtre. » Elle s'esquiva, légère comme un flocon de neige. Au moment où elle arrivait dans le salon, sa mère entra par l'autre porte. Les rideaux flottaient encore derrière la jeune fille, révélant son passage. Chourov frémit, mais la comtesse n'y fit point attention. « Allons, » dit-elle, « puisque vous êtes là, Zina, priez le prince de jouer avec vous quelque chose à quatre mains. »« Oui, maman. Prince, nous allons jouer une heure juste, comme des écoliers. Il est 3h30. » Zina avait tiré sa montre. Machinalement, le prince tira la sienne. « Vous retardez de 12 minutes, » fit la jeune comtesse. « Oh, mademoiselle, je vais comme le soleil. » « Alors c'est le soleil qui retarde, » répondit Zina en le regardant sans rire. « C'est moi qui règle l'observatoire. »« Ah !» fit le prince, comprenant enfin. « En ce cas, je réglerai mon temps sur le vôtre, » dit-il en s'inclinant. Un soupir de soulagement fut la réponse de Zina. La comtesse, distraite, feuilletait un livre intitulé « La bienveillance, étude de morale ». « Que ne commencez-vous » dit-elle en souriant avec aménité, « au lieu de vous quereller pour si peu de choses ?» Les exécutants, déjà assis au piano, entamèrent n'importe quoi et jouèrent avec un brio qui ravit la comtesse Koumiassine. « Il a des qualités, ce jeune homme, » se dit-elle, « plus de qualités que je ne supposais, et il est très riche. » La comtesse n'acheva point sa pensée, mais elle n'empêcha point les jeunes gens, comme elle les nomma à partir de ce moment, de jouer jusqu'à 5 heures. Et Dieu sait combien de fragments de phrases ils vinrent à bout d'échanger pendant ce temps-là. Il y en avait tant que cela finit par faire des idées tout entières. On ne sait si les nouvelles réflexions de la comtesse l'avaient mise en belle humeur, ou bien si le guignon, qui se mêle de tout ce qui ne le regarde pas, avait résolu de jouer un rôle dans cette affaire. Tant est-il que Zina ne put s'échapper du salon après le dîner. Sa mère avait toujours besoin d'elle pour quelque chose, et finalement elle la chargea de faire le thé. « Montrez-nous vos talents de ménagère, » dit-elle en riant. Zina voyait la soirée s'avancer. Elle eût volontiers fait quelques sottises pour être renvoyée dans sa chambre et courir sous la fenêtre de sa cousine avant de rentrer. La veille, elle l'aurait fait sans hésiter. Un sentiment nouveau de dignité féminine l'empêcha de se faire tancer devant un étranger, se dit-elle, pour se donner une raison plausible. Pendant que sa mère conférait dans la pièce voisine avec l'intendant, venue à l'improviste pour demander des ordres, elle fit un signe imperceptible au prince et en même temps appela son frère. Celui-ci, depuis l'avant-veille, était toujours aux aguets. Il accourut aussitôt, pendant que Chourov s'embarquait dans une histoire du siège de Sébastopol, dont, à vrai dire, il ne vint pas à bout de se dépêtrer. Mais la chose importait peu. L'essentiel était que l'attention des auditeurs fût captivée par ce récit. Zina en profita pour murmurer à l'oreille de son frère « Va sous la fenêtre de Lissa, elle doit être ouverte. Il fait chaud, appelle-la, elle te jettera un papier. Ne le perds pas, apporte-le-moi dans un mouchoir que tu demanderas à ma femme de chambre. » L'enfant se dirigea vers la porte. « Où allez-vous, Dimitri ? » fit Bartel, rappelé soudain à ses devoirs. « Faire une petite commission pour moi, » dit Zina. « Va, Dimitri, de ceux qui sont brodés au coton rouge, s'il te plaît. » Le petit garçon sortit sans autre empêchement. Quelques instants après, la comtesse rentra. « Où est Dimitri ? » dit-elle en parcourant des yeux le cercle. « Il est allé me chercher un mouchoir de poche, maman. J'ai laissé couler le robinet du samovar sur le mien. » En toute autre occasion, Zina n'eût pas échappé à une réprimande. Mais, décidément, la comtesse était d'une humeur accommodante. Elle ne répondit rien et demanda une tasse de thé sans sucre. Dimitri, pour exécuter son message, traversa l'antichambre pleine de domestiques. Puis, au lieu de se diriger vers le perron, comme il l'eût fait s'il avait été seul, il alla dans sa chambre, ouvrit la fenêtre, sauta dans le jardin, fit rapidement le tour de la maison et arriva sous la fenêtre de Lissa, éclairée par une veilleuse. Le store était baissé, mais la fenêtre était ouverte. Il grimpa comme un chat, cédant de la plainte qui faisait une très légère saillie à 2 pieds au-dessus du sol, et il passa sa tête avec précaution. Sa cousine ne dormait pas. Dans des angoisses horribles, elle attendait que Zina vînt chercher cette lettre, qu'elle savait par cœur et sans laquelle l'évasion devenait peut-être impraticable. Aussitôt que la tête du petit garçon parut sous le store blanc, qu'il écartait un peu de la main, Vassilissa se souleva sur le coude et mit un doigt sur ses lèvres. Une femme de chambre allait et venait dans la chambre voisine, préparant la toilette de nuit de la comtesse. Dimitri se laissa glisser dans la chambre, imparfaitement éclairée, et à 4 pattes, comme il l'avait dit, il s'approcha du lit sans faire plus de bruit qu'un chat. Vassilissa allongea la main et laissa tomber le précieux billet. Le petit garçon s'en saisit, effleura de ses lèvres en galant chevalier le bout des doigts de sa cousine, glacé par la peur, et s'en retourna comme il était venu. Le store, en retombant sur lui, battit un peu contre la fenêtre. « Voici le vent qui se lève, mademoiselle, » dit la femme de chambre. « Je crois qu'il est temps de fermer votre fenêtre. »« Ferme, » dit Vassilissa en se laissant aller sur l'oreiller. « Je suis fatiguée. » 2 minutes après, bénissant le souvenir des exercices acrobatiques de son pauvre menin français, si fort conspué des gens sérieux, Dimitri fit son entrée dans la salle à manger et remit à sa sœur le mouchoir demandé. Dans l'angle qu'il tenait serré entre ses doigts, le billet du prince craquait furtivement. Zina le prit et le mit dans sa poche. Avant de se coucher, elle trouva un moment de solitude pour le lire, le parcourut lentement deux fois, puis le mit en boulette et se mit à l'avaler méthodiquement. « Ce n'est pas bien bon du papier, » se dit-elle aux deux tiers de sa tâche. « Mais si ça ne nourrit pas, au moins ça donne du courage. » Elle dormit à poing fermé, tel César, la veille d'une bataille. Chapitre 43e. Zénaïde se promène. La journée décisive du lendemain se leva dans un ciel sans nuages. Zina, debout de bonne heure, s'en alla, sous prétexte de prendre le frais, faire un tour dans le jardin, pendant que Miss Junior parachevait son interminable toilette. La discipline, on l'a vu, était fort sévère dans la maison Koumiassine, et les enfants étaient soumis à une surveillance de toutes les minutes. C'était à peine si, dans le courant d'un mois, Zina et Dimitri avaient pu échanger deux mots avec la prisonnière. Mais depuis quelques jours, la jeune comtesse échappait décidément à la tutelle de sa gouvernante. Elle se sentait si fermement résolue à en faire à sa tête que l'anglaise, ne se sentant plus de force à lutter, emboîtait le pas derrière elle sans mot dire. Zina s'en alla donc toute seule respirer l'air matinal. Aux yeux d'un spectateur indifférent, sa promenade eut beaucoup ressemblé à celle de Jeannot Lapin, telle que nous la décrit La Fontaine, parmi le thym et la rosée. Elle s'en alla d'abord le long de l'allée qui faisait le tour du jardin, cueillant une fleur par-ci, une branche par-là, puis elle s'arrêta à une petite porte étroite qui donnait sur la campagne. Cette porte, défendue par un seul verrou à l'intérieur, n'avait pas été ouverte depuis bien longtemps. Zénaïde l'ouvrit comme par curiosité, la fit manœuvrer sur ses gonds rouillés, frotta les ferrures avec un peu de beurre frais qu'elle avait pris à la laiterie dans une feuille de salade, au grand ébahissement de la laitière. « C'est pour manger avec du pain noir », avait-elle dit. Le pain noir n'avait point paru, mais le beurre trouva fort bien son emploi. La porte fermant à merveille et s'ouvrant sans bruit, la jeune comtesse en profita pour faire un petit tour dans la campagne. Elle suivit le chemin à gauche, tourna le coin du jardin, puis fit une centaine de mètres. De l'autre côté de la maison seigneuriale, derrière les communs, s'élevait une grange isolée et fort vermoulue, dont on ne se servait plus qu'en cas de récolte surabondante. L'intendant était venu la veille, demander à la comtesse s'il fallait s'en servir pour emmagasiner le superflu d'une riche moisson. Ayant reçu une réponse affirmative, il avait envoyé des lobes, deux ouvriers poser deux gerbes de paille aux endroits les plus endommagés de la toiture. Zina poussa jusque-là. Au moment où elle s'approchait, les deux paysans, qui avaient déjà terminé leur besogne, quittaient la grange. « Quel vieux nid à charançon !» dit l'un d'eux avec dédain, en repoussant la grande porte qui s'en alla battant dans le vide. « Qu'est-ce que tu veux ? » répliqua le second, « puisqu'ils aiment mieux mettre leur blé à pourrir là-dedans que de le distribuer au pauvre monde quand ils en ont de trop, c'est leur affaire. » Et le paysan secoua sa main droite avec un geste intraduisible qui exprime aussi bien le dédain ou l'indifférence que la résignation. Ils tournèrent le coin de l'écurie et disparurent. Zina inspecta curieusement le vieux nid à charançon. C'était une bâtisse branlante, située dans un champ en jachère. Le chemin qui y conduisait était depuis longtemps envahi par l'herbe. Après en avoir fait le tour, la jeune fille entra dedans. La porte à deux battants ne fermait plus. Le battant de gauche, tout ouvert, était attaché à la muraille de Soliveau par un crochet de fer rouillé. Derrière, les ouvriers avaient déposé une douzaine de bottes de paille, restées sans emploi, après la réparation sommaire qu'ils avaient exécuté au toit de chaume. Zina contempla d'un œil satisfait cet intérieur délabré. Elle ramassa, sans doute par amour de l'ordre, tous les brins de paille épars çà et là et en fit un tas dans un coin à l'extrémité de la grange. Puis, ce léger travail accompli, elle s'en retourna au jardin. Nul ne passait à cette heure par le chemin qu'elle avait pris. Les troupeaux seuls le suivaient matin et soir en se rendant au pâturage. Elle rentra par la petite porte qu'elle avait si bien fait fonctionner. Avec une branche d'arbre, elle simula les traces des dents du râteau sur le sable qu'elle avait foulé et continua sa promenade matinale à travers le jardin. La fenêtre de Basilissa était ouverte. La prisonnière accomplissait, sous les yeux de la comtesse, son exercice de marche journalier. Zina s'arrêta. Non pour écouter, fit donc, mais pour entendre, s'il se pouvait, quelques bribes de conversation. Le hasard la favorisa. Eh bien, ma nièce, disait la comtesse, ne finirez-vous pas par reconnaître vos torts? N'avez-vous pas honte de vous rendre malade à force d'entêtement? Êtes-vous donc incapable d'un bon mouvement, d'une parole de soumission? Je vous demande pardon, ma tante, répondit la voix douce de Lisa, un peu tremblante d'émotion ou de lassitude. Je ferai tout ce que vous voudrez, excepté d'engager ma vie. Comme il vous plaira, mon enfant. Vous préférez, je le vois, tout à l'obéissance. Vasilissa ne répondit pas. Un frôlement de soie annonça à Zina que sa mère allait quitter la chambre. Elle s'élança vers la porte du jardin et rentra chez elle. L'anglaise, qui avait faim, prenait son café sans l'attendre. « Ah, si vous saviez, Miss Junior, dit la petite rusée en se servant de la crème, si vous saviez comme il fait bon dans le jardin. C'est dommage que vous n'y soyez pas venue avec moi. » Après le café, la lecture. Après la lecture, le déjeuner. Après le déjeuner, la comtesse alla voir ses abricots qui étaient presque tout à fait mûrs. « Qu'est-ce que vous faites, Zina ? » demanda-t-elle en passant sous la fenêtre de sa fille. « Je range mes affaires, maman, » répondit celle-ci, fort occupée en effet, à faire un petit paquet mystérieux pendant que Miss Junior arrangeait son oreiller à grands coups de poing pour la sieste préméditée. « Quand vous aurez fini, venez me rejoindre aux abricots, » dit la comtesse, qui s'éloigna sans attendre la réponse. Zina mit son petit paquet dans un panier qu'elle passa à son bras. « As-tu vu mon frère ? » demanda-t-elle au premier domestique qu'elle rencontra. « Le jeune comte doit être dans sa chambre. » Zina se dirigea vers la chambre que Dimitri partageait avec son gouverneur. Une odeur de cigare bourgeois très prononcée annonçait la présence de celui-ci. Elle s'arrêta dans la pièce qui précédait. « Dimitri, dit-elle, écoute un peu. » Le petit garçon accourut. « Maman est aux abricots. Il faut que tu portes ça tout de suite. » Elle tira du panier le petit paquet formé d'une paire de bottines et d'un châle de barège. Par la fenêtre ? Non, par la chambre. S'il n'était pas seul, ce serait dangereux. À quatre pattes, s'écria Dimitri, qui partit en gambadant. Zina s'en alla, le cœur plein d'alarmes, rejoindre sa mère aux abricots. Le goût du plus beau fruit, du plus beau après celui qu'avait mangé sa mère, ne put la distraire de son inquiétude. Par bonheur, 20 minutes, les plus longues de sa vie, ne s'étaient pas écoulées que le petit garçon parut au bout de l'avenue, se dirigeant vers le bois en compagnie de son gouverneur. « Dimitri, écoute encore !» cria Zina en se précipitant à toutes jambes vers ce couple intéressant. Dimitri tourna la tête, et voyant venir sa sœur, il se mit à courir aussi vers elle. Ils se rencontrèrent dans un endroit absolument désert, hors de toute portée de la voix. « Eh bien ?» fit la jeune fille essoufflée. « Elle les a fourrés dans son lit, » répondit Dimitri. « C'est bien. Maintenant, il me faut des allumettes. »« Des allumettes ?» fit l'enfant en ouvrant de grands yeux. Zina rougit involontairement. « Oui, des allumettes, des bonnes. Beaucoup, une douzaine. » « C'est bon, je vais voler le porte-allumette de mon Allemand. Tu me le rendras ?»«
Certainement. »«
Je te le donnerai à dîner. C'est extrêmement simple. »«
Merci. Rapporte-moi des framboises sauvages, si tu en trouves. Il faut bien que je t'aie demandé quelque chose. Et puis... »
Ici, la jeune comtesse se troubla visiblement. Les grands yeux de son frère lui posaient tant de questions qu'elle se sentait embarrassée. « Quoi que tu entendes ce soir, ne sors pas, mon cher ami, reste à la maison, j'aurai besoin de toi. Il faudra peut-être une chaise ou quelque chose de ce genre pour la faire sortir. Tu resteras ?»«
Sans doute, mais qu'est-ce qu'il y aura ce soir ?»«
Ne me le demande pas. » »«
Il n'y aura peut-être rien, si je peux l'empêcher. » »«
Est-ce que tu pourrais penser mal de moi si je faisais quelque chose de mal ?»«
Jamais !»
répondit vivement l'enfant. « Si tu fais quelque chose de mal, c'est qu'il leur a fallu pour faire autre chose de bien. »
Zénaïde embrassa tendrement son frère.
« Bah, dit-elle, n'oublie pas les framboises. »
Dimitri, qui courait déjà, se retourna pour lui faire un signe affirmatif, et la jeune fille alla retrouver sa mère, qui s'était absorbée dans la contemplation de ses magnifiques abricots. Aucun visiteur ne se présenta jusqu'au soir.
« Quelle journée ?
qu'elle parut longue à chacun de ceux qui avaient hâte de la voir finir. La monotonie des jours à la campagne est quelque chose d'inimaginable pour ceux qui n'en ont point éprouvé l'incommensurable ennui. Dès qu'on peut s'occuper de quelque chose, le jour passe là comme ailleurs. Mais les grandes dames russes dans leurs terres ont parfois une manière d'errer çà et là dans leur domaine, suivie de quelques victimes pour leur tenir compagnie, qui est bien le pire des supplices pour un esprit actif ou préoccupé. Pendant toute la longue après-midi, la comtesse traîna sa fille des abricots aux ananas, puis à la serre tempérée, puis à la melonnière, puis au bord de l'étang où l'on pêchait des carassins pour sa table, puis au poulailler, afin de rendre visite à de fort belles poules que la comtesse affectionnait au point de leur consacrer des heures entières et que Zina haïssait d'une horreur proportionnelle. De là, une fois les poules repues de grains choisis que Zina dut aller chercher à la réserve, la malheureuse enfant suivit sa mère à la maison de bain qu'on préparait pour le lendemain samedi, jour de nettoyage général, puis à la blanchisserie où cinq repasseuses émérites amidonnaient et gaufraient tout le long du jour les interminables garnitures de la lingerie savante qu'aimait la comtesse, puis à l'écurie, puis à l'étable où les vaches mères restaient avec les veaux nouveau-nés. Après 4 heures de ce supplice, Zina, écœurée par l'odeur de la vase remuée, des poules, des fers chauds sur l'empois, aveuglée par l'éclat du soleil sur les melonnières et sur le miroir de l'étang, lasse à mourir d'être restée si longtemps sur ses jambes en marchant à petits pas sur le gravier, Zina rentra chez elle et se laissa choir dans un fauteuil. « Et maman qui se plaint de sa santé ? » s'écria-t-elle avec humeur. « Mais je mourrais s'il me fallait 2 fois par semaine seulement recommencer cette corvée. » « Qu'est-ce que vous avez ? » demanda Miss Junior, qui avait joui délicieusement de sa solitude en prolongeant sa sieste sur un roman anglais. Des blanchisseuses, des carassins, des abricots, des pêcheurs au filet, des poules, des melons et leurs jardiniers, des bâches et leurs veaux, des ananas, des orangers et des balais de bouleau pour vous rosser demain au bain, des seaux de lessive, des chevaux et des fers à tuyauter. Que vous faut-il encore ? Ah, que j'ai mal à la tête ! S'écria Zina, tout d'une haleine. Sa gouvernante la regardait d'un air si ahuri qu'elle éclata de rire et lui tapa amicalement 2 ou 3 fois dans le dos. « Et quand on pense, reprit-elle, qu'il faut que je m'habille pour le dîner ?»« Quelle robe, mademoiselle ? » dit la femme de chambre. « Celle que tu voudras. »« Non, non, » reprit vivement l'étourdi, « ma robe gris foncé, celle qui est toute unie. » »« Une robe si simple pour dîner ?»« Puisqu'il n'y a personne, » répondait Zina en bâillant à cœur joie. « Oh, Miss Junior, je vous demande pardon, » ajouta-t-elle, « mais je dors debout. C'est la faute de maman. Je me coucherai tout de suite après le dîner. Vous feriez mieux de rester un peu à prendre l'air ce soir dans le jardin. Il fait si bon au frais. » « C'est une idée. Mais non, je crois que le sommeil vaudra mieux. »
Chapitre 44e. Au feu. Zina acheva sa toilette sans autre mésaventure. Comme elle entrait dans la salle à manger, Dimitri lui glissa dans la main le porte-allumette de son gouverneur. Le dîner fut aussi remarquablement ennuyeux que l'avait été la journée. La comtesse, afin de se distraire, mit sa fille au piano pour la soirée, pendant que Wartel lui lisait la revue des deux mondes en ce français qui amusait si fort Dimitri. On peut juger du plaisir qu'éprouvait Zénaïde à jouer du Mendelssohn pendant que les minutes s'enfuyaient irréparables et qu'elle ne pouvait s'occuper de la grande affaire. Le temps s'était couvert. Si la pluie s'en mêlait, ce serait complet. Enfin, à 8 heures, Zina profita d'un moment de solitude pour dire 2 mots à l'oreille de Dimitri, qui s'esquiva et courut à la fenêtre de Lisa. « Es-tu prête ? » murmura-t-il. « Oui, mon chéri, » répondit celle-ci qui tremblait depuis le matin. L'isolement, qui laissait le champ libre à toutes ses pensées, à toutes ses conjectures, était pour elle une sorte de poison qui la consumait. Elle avait prié tout le jour afin de calmer son agitation. Mais la prière même s'était émoussée à cette lutte continuelle, et la pauvre enfant ne pouvait plus que trembler. Dimitri s'enfuit et revint au salon. Un geste apprit à sa sœur que tout allait bien. À 8h30 enfin, les apprêts du thé commencèrent dans la salle à manger, et la musique eut le droit de cesser. « Tant pis, se dit Zina, je joue mon reste. » Et elle sortit sur la pointe du pied,
sans que personne n'y prît garde. Miss Junior était dans sa chambre, écrivant une lettre, bien tranquille sur le sort de son élève qu'elle savait être avec la comtesse. Bartel lisait toujours la revue, Dimitri faisait des patiences dans la pièce voisine. Un dernier regard sur ce paisible intérieur rassura Zénaïde. Elle sortit par le perron du jardin et gagna, sans se presser, la petite porte qu'elle avait préparée le matin. Arrivée là, elle se dirigea vers la grange isolée en courant si fort qu'elle faillit tomber plusieurs fois. Elle entra dans le bâtiment désert et ressortit au bout d'une minute, puis elle regagna le jardin, toujours courant. Quelques instants après, elle rentrait tranquillement par le perron. Sa respiration, encore agitée, qu'elle retenait avec peine, était le seul indice de sa course rapide. Seulement, au lieu d'être rouge, comme c'eût été naturel, elle était fort pâle. Elle tira sa montre. L'aiguille marquait 8h15. Elle s'assit à côté de Dimitri et parut s'intéresser à sa patience. Tout à coup, une rumeur confuse, terminée par un grand cri, s'éleva dans la cour. Les domestiques, affairés dans l'office, se précipitèrent au dehors, puis rentrèrent soudain. Le maître d'hôtel entra tout blême. « Au feu !» dit-il d'une voix étranglée. La comtesse se leva brusquement. « Le feu, où ?»« Dans les communs, je crois, tout près, madame la comtesse. » La comtesse sortit du salon. « Ne bougez pas !» dit-elle à ses enfants, qui s'étaient levés aussi et qui, plus blancs que la nappe, cherchaient à lire dans ses yeux. « Bartel, suivez-moi, voici la clé. » Elle détacha une clé du trousseau qui ne quittait pas sa poche. « Vous allez faire sortir la pompe. » Elle sortit, suivie du gouverneur et de la foule des domestiques. Les femmes de chambre, effarées et curieuses, se précipitèrent à leur suite. Une lueur intense embrasait le ciel du côté des communs. Les cris, au feu, retentissaient partout. Dimitri et Zina, restés seuls, se regardèrent sans parler. « Allons !» disait Naïde. Ils coururent à la chambre de Vassilissa. Celle-ci, assise tout habillée sur son lit, attendait, ne comprenant rien au bruit. Elle ne pouvait pas voir la lueur de l'incendie opposée à sa fenêtre. « Courons !» dit Zina. « Vite !» Soutenue par eux, Vassilissa traversa en courant la vaste maison déserte. Sa robe de chambre flottante la gênait. Dimitri en prit un pan. Les grandes pièces, somptueusement éclairées et vides, avaient un air étrangement lugubre qui frappa Zina au cœur. « C'est moi qui ai fait cela, » pensa-t-elle, et quelque chose comme un regret traversa son âme. Mais Vassilissa, tremblante, éperdue, était là, sur son bras, presque sur son cœur. C'était à elle qu'il fallait penser. Le perron franchi, le plus dangereux était fait. Le jardin sombre, bien qu'il ne fût pas encore tout à fait nuit, protégeait leur fuite. Ils arrivèrent à la petite porte. « Retourne, Dimitri, » dit Zina. L'enfant avait bien envie d'aller plus loin, mais la voix de sa sœur était si impérieuse, si différente de l'ordinaire, qu'il n'osa insister. Vassilissa se pencha sur lui et le pressa sur son cœur. Un baiser ardent fut échangé, et les deux jeunes filles, laissant derrière elles la grange incendiée, tournèrent à droite et prirent leur course à travers un champ de trèfles nouvellement fauché, pendant que le petit Dimitri regagnait tristement la maison. On entendait dans le lointain les cris « au feu » répétés par les paysannes, qui ne sont jamais à court de lamentations. Le ciel bas réverbérait la clarté sinistre qui éclairait leur route. Vassilissa ne courait plus, elle marchait de son mieux, mais ses forces déclinaient visiblement. Pas un mot n'avait été prononcé. Arrivée au petit cimetière, elle s'engageait en droite ligne dans le taillis, franchissant les tombes dont quelques-unes, fraîchement comblées, croulaient sous leurs pieds. 20 mètres les séparaient encore de la route, mais la pente descendante était rapide. « Je ne puis plus !» dit Vassilissa, tombant à demi évanouie et essayant de se cramponner à une croix. « Courage, ma chérie, courage ! Encore un effort !» dit Zina, qui l'aidait à se relever, mais ne pouvait y réussir. La lueur rouge semblait diminuer d'intensité. Zina fit un effort désespéré. Passant le devant de sa robe dans sa ceinture, elle enleva Lissa dans ses bras et descendit presque en courant la pente où les cailloux roulaient avec fracas derrière elle. Elle sentit enfin l'herbe sous ses pieds, tourna un buisson, et devant elle, une petite calèche basse attendait. Le prince avait tenu parole. Madame Goroff, assise dans la calèche, ses jambes ne pouvaient la soutenir. poussa un faible cri. Zina déposa sur les coussins sa cousine à demi évanouie. « Au revoir, » lui dit-elle. « Le Seigneur vous bénira, mon enfant, » murmura Madame Goroff d'une voix étouffée. Zina couvrit de baisers le corps presque inanimé de sa cousine. « Que Dieu vous mène, » dit-elle, « au galop. » La troïka partit ventre à terre. Zina resta un instant sur le chemin et la regarda s'éloigner. Elle songeait à tant de choses en ce moment-là qu'il serait impossible de noter ses impressions. Mais une pensée dominait tout. Le prince avait tenu sa parole. C'était un noble cœur. Elle tressaillit et reprit en courant le chemin de la maison. Mais ses jambes tremblaient. Elle chancelait à tout moment. Elle fut obligée de ralentir sa course. La lueur rouge était bien terne. C'était fini. Sans doute aucun malheur à déplorer. Devant la pensée du fait accompli, toute l'ardeur joyeuse qu'il avait soutenue abandonna la jeune fille. Elle sentit les pleurs lui monter à la gorge. Qu'allait-elle faire à présent vis-à-vis de sa mère courroucée? « Qu'importe, se dit-elle, elle ne me tuera pas. Et si elle est en colère, elle en a bien le droit. Je serai soumise, pourvu qu'elle ne touche pas à mon frère. » Zina ferma la petite porte du jardin, si secourable, et rentra par le perron. La maison était pleine de bruit. L'intendant faisait son rapport à la comtesse dans le petit salon. Dimitri semblait n'avoir fait que des patiences toute la soirée. Bartel, en rentrant, l'avait trouvé à son poste. Zina rentra dans la salle à manger sans que personne y attachât d'importance. « Mais à quoi attribuez-vous l'incendie ? » demandait la comtesse. « Je ne peux pas vous le dire, Excellence, » répondait l'intendant. « Il faut qu'un paysan, en fumant sa pipe, ait laissé voler une étincelle. Mais la grange était très loin de la route. Les ouvriers de ce matin, peut-être, je crois qu'ils sont grands fumeurs. Le feu aurait couvé toute la journée, » répartit la comtesse. « Ce n'est guère probable. Enfin, faites-les arrêter, ces deux ouvriers, et informez-vous. » Dimitri regarda sa sœur. Celle-ci, pâle, les lèvres serrées, écoutait en silence. On servait le thé. Les tasses et leurs cuillères faisaient leur petite musique joyeuse comme à l'ordinaire. « Je le sais bien, » reprit la comtesse, « ce n'est pas une grande perte que cette grange décrépite, mais pour moi ce sinistre est dû à la malveillance, et il m'importe d'en connaître l'auteur. »« On s'informera, votre excellence, » répondit l'intendant. On avait posé une tasse de thé devant Zénaïde. Elle n'y touchait pas. Son frère la tira vivement par sa robe. Elle comprit et se mit en devoir de l'avaler, bien qu'elle n'y trouvât absolument aucun goût. L'intendant sortit pour faire une ronde, accompagné des gardiens ordinaires, afin de voir s'il n'y avait pas d'autres points menacés. La comtesse entra dans la salle à manger, pleine de monde, la parcourut du regard, y trouva tous ceux qu'elle cherchait, puis une pensée charitable lui vint. Elle sonna. « La pauvre Vassilissa a dû avoir bien peur, » dit-elle à son entourage. « Envoyez une femme de chambre prendre de ses nouvelles, » en s'adressant au domestique, « et dites-lui que j'irai la voir tout à l'heure. » Zina resta immobile, attendant le coup de foudre. Ce ne fut pas long. Le domestique entra, suivi par la femme de chambre de Vassilissa, pâle, consternée et se croyant déjà sur le chemin de la Sibérie. « Mademoiselle Vassilissa n'est pas dans sa chambre, » dit le serviteur, qui se hâta de disparaître. Un cri étouffé retentit dans la salle à manger. Toutes les poitrines l'avaient poussé en même temps, mues par la même pensée. La comtesse se leva, se dirigea rapidement vers la chambre et revint au bout d'une minute, les yeux flamboyants d'une indicible colère. « Où est ma nièce ? » demanda-t-elle d'une voix sèche et stridente comme le bruissement des cigales. Personne ne répondit. Un silence de mort régna dans la salle. « Qu'on fouille la maison ! Qu'on parcourt le jardin ! Elle ne peut être loin !» Les domestiques s'empressèrent d'obéir. « Elle a dû passer par ici pour sortir, » dit la comtesse en promenant son regard sur l'assemblée. « La chambre des femmes de chambre a aussi une sortie sur le perron, » fit observer une des protégées. « C'est juste, » dit la comtesse, « toutes les femmes de chambre. » Le troupeau éploré se pressa bientôt à l'entrée de la salle. « Qui est-ce qui était dans la chambre de service lorsque ma nièce est sortie ?» fit la châtelaine d'une voix terrible dans son calme. Un frémissement sourd parcourut le groupe, et les têtes firent toutes le même mouvement négatif. « Vous avez abandonné votre poste, » reprit la comtesse avec mépris. « Vous serez punis, comme il convient. Allez !» Elles sortirent en se pressant les unes contre les autres, et leurs gémissements étouffés se firent entendre dans l'antichambre. Le maître d'hôtel rentra. « Eh bien, fit la comtesse, qui devenait nerveuse, on a cherché, votre excellence, on cherche encore avec des torches, on n'a rien trouvé. Il n'y a plus, ajouta-t-il en hésitant, que... Parle donc, imbécile, qu'est-ce qu'il y a ?
L'étang, murmura le domestique à voix basse.
L'étang, vous n'aviez pas pensé à cela, comtesse Koumiassine. Vous n'aviez pas songé que votre nièce pourrait préférer une mort immédiate à la mort lente dont elle se croyait menacée. Un frémissement d'horreur avait parcouru l'assemblée. Quelques mots entrecoupés, échangés à voix basse, exprimaient le sentiment général. Pauvre petite, elle était si malheureuse. Que Dieu ait son âme. Attente dans ses sentiments de chrétienne et de mère adoptive, frappée dans son orgueil devant cette foule de gens qui lui devaient le pain quotidien, la comtesse reçut alors le châtiment de son incompréhensible obstination.
« Qu'on cherche, » dit-elle à voix basse,
et elle se détourna. Une larme, une vraie larme de repentir, suivie d'autres nombreuses, apprit à ceux qui l'entouraient que la comtesse avait un cœur de femme, après tout, et qu'elle connaissait le remords.
« Que Dieu me pardonne. Je ne croyais pas mal faire. »
Elle resta là, en présence de ces gens qui la jugeaient, qui la condamnait, elle le sentait. Elle restait là, offrant à Dieu cette humiliation, avec le regret de son cœur broyé, broyé jusqu'à la clémence, car si Vasilissa fût entrée en cet instant-là, elle lui eût tendu les bras sans arrière-pensée. Après le premier moment de surprise, la comtesse s'assit sur une chaise pour attendre. Puis une idée lui vint.
« Prions, dit-elle d'une voix brisée, prions pour une âme pécheresse en danger de mort. Répétons les prières des agonisants. »
La foule, tous les domestiques étaient restés là, se tourna vers l'image qui protège chaque pièce d'un appartement russe. La comtesse fit le signe de la croix sur son visage couvert de larmes et se tourna lentement. Zina ne put soutenir la vue des larmes de sa mère.
« Maman,
dit-elle à haute voix. La comtesse tourna vers elle son visage étonné.
« Maman, ma cousine n'est pas morte. Elle est partie, ajouta-t-elle avec effort.
« Partie, tonna la comtesse. Et vous le saviez ?
« Maman, j'ai manqué à mes devoirs envers vous. Punissez-moi. Seul, je suis coupable. »
La comtesse regarda attentivement sa fille, pensant qu'elle était devenue folle. Le visage modeste et assuré de Zénaïde dissipa cette crainte, et la colère prit le dessus.
« Vos complices ? » dit la mère indignée. « Je n'en ai pas, j'ai tout arrangé seul.
Seul, c'est impossible.
Seul, maman, personne dans cette maison n'a rien vu ni rien su.
Mais cet incendie, ce n'est pas le hasard.
C'est moi, maman, qui mis le feu pour que la maison fût vide et que ma cousine pût partir.
Vous ? Vous ? » répéta la comtesse terrifiée.
« Incendiaire, vous ? Malheureuse, vous, ma fille ! Vous n'êtes pas ma fille, je vous renie !»
Zénaïde pâlit encore, s'il se peut. La foule qui remplissait la pièce se partageait évidemment entre ceux qui approuvaient et ceux qui blâmaient. La jeune comtesse ne put supporter le blâme et l'orgueil de sa mère parla en elle.
« J'ai mal fait, je le sais, dit-elle, bien que je n'ai fait de tort à personne. » Mais ma cousine était si malheureuse que tout à l'heure, sa mort vous a paru à tous une chose probable, naturelle. Ne vaut-il pas mieux la savoir vivante et loin d'ici que morte dans cet étang ?
Le geste digne et fier de Zina montrait la fenêtre.
« Mais vous, vous, répéta la comtesse, vous avez commis un crime punissable par les lois. Vous avez couvert notre maison de honte. Vous vous êtes joué de votre mère.
Si j'avais voulu me jouer de ma mère, je lui aurais laissé croire que ma cousine était morte, et j'aurais joui de l'impunité.
Mais je n'ai pas pu voir pleurer ma mère. »
La voix de Zénaïde s'éteignit dans un sanglot, et la pauvre enfant essaya de se jeter au cou de la comtesse. Celle-ci, bien qu'attendrie par cet élan spontané, crut de sa dignité de ne pas se laisser émouvoir.
« C'est bien, » fit-elle en écartant sa fille, « nous en reparlerons demain. »
Elle se tourna vers les domestiques. « Qu'on arrête les recherches. » Puis, s'adressant de nouveau à sa fille, « Avec qui est-elle partie ?» Friande de scandale, l'assemblée qui se dispersait s'arrêta pour écouter.
« Avec sa mère, » répondit Zina, non sans un secret triomphe.
Ce fut un coup de massue pour la comtesse, qui rentra dans ses appartements sans vouloir dire un mot de plus.